Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. Bonjour Gilles Le Gardinier.
Bonjour Philippe.
Vous êtes écrivain, des romans traduits dans 22 pays, vendus à 5 millions d'exemplaires. Tout le monde connaît vos couvertures avec des chats, notamment Demain j'arrête avec ce chat et son bonnet péruvien ridicule que j'adore. En 2016, terminez Les chats en couve, vous changez d'éditeur, vous passez chez Flammarion avec Le premier miracle, un thriller quelque part entre James Bond et le Da Vinci Code. Et là, votre actu, c'est un nouveau roman, toujours chez Flammarion, Le secret de la cité sans soleil. Quelque part, là, je vais dire, entre le bureau des légendes, Mission Impossible et Le nom de la rose, c'est une intrigue absolument impossible à résumer. Comme je ne savais pas par quoi commencer, je me dis, je vais lui demander à lui, il saura le faire. Quelle est cette cité sans soleil? Je sais quand même qu'elle se trouve en France. Elle a été bâtie en 1244, je n'ai pas de mérite à le savoir. C'est écrit dans vos pages. C'est bon, Ségur.
Oui, tout à fait. C'est dans les contreforts des Pyrénées. Mmh. C'est un château sur un site extraordinaire, vraiment un pic, qui a toujours attiré les historiens, les chercheurs, les fans de mystères historiques. Et alors, j'ai pas de mérite. En fait, j'ai découvert de façon très particulière parce que quand je travaillais dans les studios de cinéma, les gens qui, dans des missions très sérieuses, dans des fondations très sérieuses, faisaient des recherches, venaient nous demander du matériel pour filmer dans des milieux compliqués, sous-marins, souterrains. Et que moi, curieux que j'étais, je proposais toujours d'accompagner le matériel pour voir, me glisser en petite souris et voir. Et c'est comme ça que j'ai découvert Montségur. C'est vraiment le roman qui m'a donné envie d'écrire.
Donc, les sous-marins dans lesquels on suit les pérégrinations de vos héros existent vraiment?
Les souterrains?
Oui, j'ai dit les sous-marins. Les souterrains,
c'est
pardonnez-moi.
C'est très différent,
les
Philippe.
Les souterrains.
Vous faites pas mal.
Les souterrains.
Mais pour le coup, oui. Alors, ils ne sont pas découverts. C'est évident qu'il y en a.
Attendez, ils existent vraiment, mais ils ne sont pas découverts. Mais quand même, ils vous ont demandé des caméras pour les filmer sans pouvoir y être allé. J'ai rien compris.
Non, ils nous ont demandé des caméras pour faire des recherches dans le coin, dans toutes les cavités possibles. La région est un gruyère. Ouais. Elle est bardée de grottes. Et certaines sont éboulées, certaines ont été obstruées. Mais pour le coup, il est évident qu'historiquement, les gens qui occupaient Montségur utilisaient des souterrains.
Je dois dire qu'hier, j'ai fait quelque chose, j'ai fait une recherche. Je voulais voir, évidemment, vous parliez de Montségur. C'était d'abord une place forte, puis ensuite, ça a été détruit. Les Cathares y étaient, puis ils ont été chassés par le pouvoir en place. Le château a été reconstruit. Il y a des images absolument formidables. Vous irez voir à la fin de l'émission. Il y a des séquences des racines de l'émission Des racines et des ailes, où on voit de l'animation 3D, on voit Montségur tel qu'il était au XIIIe siècle. C'est juste absolument somptueux. Alors, qui sont vos héros?
C'est un tandem, c'est deux potes. Il y en a un qui travaille, on va dire, dans les fondations, d'un côté plutôt secret, que son meilleur pote ignore. Et un attentat qu'ils subissent tous les deux ensemble va les obliger à s'avouer la réalité de leur vie, on va dire. Et en fait, c'est un qui connaît et un qui ne connaît pas qui vont se retrouver embringués dans une aventure où ils vont pouvoir uniquement s'en sortir si l'un s'appuie sur l'autre. C'est un peu l'objet de toutes mes histoires. J'aime bien que les gens s'en sortent ensemble. Je suis convaincu qu'on n'avance pas très loin tout seul.
Alors, je me suis dit, c'est quand même assez manichéen. On va raconter tout à l'heure que c'est à la base un roman de jeunesse, mais c'est quand même un peu les bons contre les méchants. Je ne vous le reproche pas, mais c'est ainsi que vous l'avez écrit.
Complètement. Mais à la base, quand vous avez un roman avec une histoire, vous perdez forcément une part de la nuance si jamais vous avez une volonté d'aventure.
Vous savez qu'il y a une doxa ici, je reçois beaucoup, beaucoup de romanciers, beaucoup de cinéastes, et la doxa, c'est de dire que le bon a aussi des côtés sombres et que le méchant a des côtés gentils. Et à la fin, on réhabilite tout le monde.
Alors, je réhabilite pas tout le monde, parce que je pense qu'à un moment, il faut quand même tirer les traits et faire les additions. L'idée pour moi, c'était... D'abord, je l'ai écrit quand j'avais... Il y a presque 30 ans, Philippe.
On va en parler ouais. Après.
Et ensuite, pour moi, je pense qu'il faut malheureusement... simplifier un peu pour rendre les choses évidentes. Et l'idée, ce n'était pas ni donner de leçons, ni de fixer les lignes de ce qui est bien ou de ce qui est mal, mais de présenter un lieu qui est extraordinaire et qui en lui-même porte toutes les ambiguïtés et toutes les nuances dont vous parlez.
C'est un roman qui a été écrit avec beaucoup, beaucoup de documentation. On le sent, vous racontez la différence entre les Templiers et les Cisterciens. Si quelqu'un a un exposé à faire, c'est page 119. Mais alors, vous prêtez à ces Templiers, à ces Cisterciens, des secrets. J'arrive pas à savoir si c'est authentique ou pas authentique. On sait que jamais aucun alchimiste n'a réussi à transformer le plomb en or. Mais vous dites quand même qu'ils auraient découvert des forces encore plus triste que le feu nucléaire. Vous appuyez sur quoi ? C'est de la doc ou c'est l'imagination de Gilles Le Gardinier ?
Alors, il y a de l'imagination. Je suis romancier, je ne suis pas historien. À la fin du livre, j'ai rajouté des chapitres qui, eux, sont historiques pour permettre aux gens de démêler le vrai du faux s'ils veulent aller plus loin. C'est quelque chose que j'aime faire. Mais pour le coup, je suis là pour raconter une histoire. Et c'est évident, quand on parle de ces sociétés, pas forcément secrètes d'ailleurs, l'histoire est toujours plus impressionnante que ce que des mauvais scénaristes ou des mauvais romanciers en ont fait. C'est-à-dire, quand on se donne la peine de se documenter, il y a des choses inexplicables qui n'ont toujours pas été expliquées et qui sont juste fascinantes, dans lesquelles mon imagination s'épanouit.
Mais quand il fait nuit dans les souterrains, ils avaient vraiment inventé des blocs magnétiques dissimulés dans les murs qui permettent le guidage avec des boussoles ?
Les matières phosphorescentes ont toujours existé. Elles ont toujours été découvertes. On les voit dans l'eau, dans les puits de moteur, on les voit en terre, dans plein d'endroits. L'essentiel, c'est pas de découvrir, c'est de savoir où importer, où amener les choses dont on a besoin.
Vous faisiez quoi à 27 ans, Gilles Le Gardinier ?
J'étais dans la pyrotechnie, Philippe.
Ouais.
Je faisais tout péter.
Et vous imaginiez comment ?
Comment je m'imaginais ?
Vous aviez une grosse pulsion de vie ?
Je l'ai toujours. C'est-à-dire que j'ai toujours été extrêmement vivant, extrêmement curieux, extrêmement grégaire. J'aime les gens, j'aime la vie, j'aime découvrir.
Vous savez ce qu'est le Club des 27 ?
Oui, un petit peu.
On en parle, c'est Stéphanie Loire qui nous rejoint. On va parler de musique, Culture Média continue. On est avec Gilles Le Gardinier, à tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Gilles Le Gardinier, Le secret de la cité sans soleil, ça vient d'être publié par Flammarion, votre désormais éditeur. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Gilles Le Gardinier.
Bonjour. Avec vous, on va parler musique. Vous écoutez beaucoup de musique, Gilles Le Gardinier ?
Ah, c'est important.
Vous écoutez quoi en ce moment et vous écoutez quoi pour travailler ? Je sais, ça fait deux questions.
Alors, jamais pour travailler. Mes émotions, je vais les chercher en moi, pas dans celles des autres. Et pour le coup, non, je peux écouter du classique, je peux écouter de la pop, je peux écouter... Mes enfants me font découvrir énormément de choses, je suis curieux.
Du rock, du blues parfois ?
Oui, bien sûr.
Ah ben, on va y venir alors.
Alors, on va commencer avec vous, Stéphanie, avec un inédit des Doors.
Oui, parce qu'il y a quelques jours, un disque inédit des Doors était publié. Un disque en édition limitée à 10 000 exemplaires. C'est pas beaucoup. Mmh. Alors, j'entends déjà au loin les plus sceptiques d'entre vous dire... Je propose que Philippe joue les sceptiques.
Ouais, encore un remix, encore un inédit tiède des Doors.
Vous jouez vachement bien. Eh bien non, je m'inscris en faux. J'ai toujours rêvé de dire ça à la radio. Ouais. Ce disque contient un enregistrement...
T'as raison.
Ce disque contient un enregistrement inédit de qualité du groupe de Jim Morrison, et j'insiste sur le mot qualité. Le titre qui donne son nom au disque, c'est Paris Blues, une chanson originale écrite par le groupe. Écoutez la rencontre de la magie des Doors et du blues. I'd see the world as a great big dream, and all night long you could hear me scream. C'est un titre qui a été jusqu'alors enterré dans les archives de Ray Manzarek, qui est le claviériste des Doors. Sur ce disque, il y a deux autres inédits qui avaient été laissés de côté. Des extraits du live in Vancouver de 1970, des chutes de studio de l'époque. Puisqu'on est à l'heure du recyclage, on recycle tout, même les chutes de studio des années 60-70. Ne jetez surtout rien.
Et puis ce que je voulais dire, c'est que Paris Blues, ce disque inédit des Doors, le groupe de Jim Morrison, c'est un artiste qui fait partie d'un cercle qu'on appelle le Club des 27.
Ouais, en effet, Jim Morrison, il fait partie du sinistre Club des 27, appelé Forever 27 Club aux États-Unis, un cercle qui désigne les célébrités du rock et du blues qui ont pour trait commun d'être morts à l'âge de 27 ans, à l'apogée de leur carrière. Il y a un livre récemment publié chez Larousse qui fait la lumière sur ce club maudit. Un ouvrage signé par Pierre Mikhailov, intitulé Le Club des 27, qui se penche sur ces nombreux artistes qui ont rendu l'âme à 27 ans au travers d'une galerie de portraits illustrés que je vous invite à consulter si vous voulez, Gilles Le Gardinier.
Il est magnifique ce livre, mais je vais le passer à Gilles.
Parmi ceux-là, donc, il y a Jim Morrison, mais aussi la chanteuse Janis Joplin, qui est morte, elle, le 4 octobre 1970, à 27 ans des suites d'une overdose. Une chanteuse qui reste a jamais gravé dans l'histoire du rock pour son timbre unique, la puissance et la grâce de sa présence scénique. Une petite lichette de Summertime juste pour la gourmandise, ça vous va ?
Je vais dire aussi un cliché, mais vraiment, Janis Joplin, 100 fois imité, jamais égalé. Personne n'y est
jamais arrivé.
Personne n'a atteint ce niveau.
C'est extraordinaire. C'est superbe.
Bon, si vous êtes sympa, vous repartirez peut-être avec.
Ouais.
Au sein du sombre club des 27, le musicien des Rolling Stones, Brian Jones, salut. Le chanteur de Nirvana, Kurt Cobain, Jean-Michel Basquiat aussi, qui fut brièvement musicien avant de se consacrer à la peinture. Il avait un groupe qui s'appelait Grey. Celui qui inaugure ce bal de l'autodestruction à la fin des années 1930, c'est le bluesman Robert Johnson. Et puis, bien d'autres musiciens qui ont rejoint ce triste club des 27, d'où l'apparition de nombreuses théories qui confèrent à ce chiffre une dimension magique ou mystique fondée sur la superstition. Alors, ce qu'il en ressort en conclusion, Philippe, c'est que la corporation des rockstars compte assez peu de nonagénaires hein, dans ses rangs. Bon. Et comme le souligne Alice Cooper, vous savez qui c'est Alice Cooper ?
Évidemment,
forcément.
C'est ouais. Marilyn Manson des années 70, un voilà. petit peu, si je dois résumer.
Vous savez que c'est un Français, vous connaissez son vrai nom ?
Non.
Vincent Fournier.
Ah ben Vincent Fournier, ça fait moins Marilyn Manson. Ouais. Ben, lui, il a survécu aux années 70, il a survécu tout court à cette époque, il est aujourd'hui âgé de 73 ans, et il a dit « Aucun d'entre nous n'avait prévu de vivre au-delà de nos 30 ans. »
Et alors, je ne l'aurais pas su si vous ne m'avez pas mis sur ma fiche, on aurait dû célébrer les 80 ans de Jimi Hendrix, qui fait lui aussi partie de ce sombre club des 27.
Ouais, il y a 80 ans et 4 jours précisément, le 27 novembre 1942, à Seattle, naissait une étoile filante du rock, Jimi Hendrix. L'un des plus grands joueurs de guitare électrique du monde, l'un des musiciens les plus importants du XXe siècle, c'est lui qui a littéralement électrisé l'hymne national américain à Woodstock. Vous étiez dans le public, Philippe, lors d'une prestation filmée devenue l'un des moments les plus mythiques de l'histoire du rock.
Ça aussi, ça a été imité 50 fois. Personne n'a eu l'énergie qu'il avait. Et puis surtout, c'est le fait de faire. Il y a un proverbe que j'adore qui dit « On n'a jamais deux fois la chance de faire une première impression ».
Voilà. Celle-ci, elle reste gravée dans les mémoires. Difficile de croire qu'Hendrix n'avait plus qu'un an à vivre après ce moment culte. Il est retrouvé mort le 18 septembre 1970 dans sa chambre d'hôtel à Londres. Dernière station avant les étoiles pour l'artiste qui n'a pas survécu un mélange de barbiturique et d'alcool que je vous déconseille fortement. Lui qui chantait son mal-être sur fond de passion pour le LSD dans Purple Haze. Vous devriez avoir des images, voir Philippe faire de la air guitare sur Hendrix, c'est bon pour la santé.
Bah, j'ose pas, ils jouent trop bien.
Tous talentueux jeunes, victimes de leur excès d'alcool, de drogue ou de désespoir pour certains dans ce cercle des 27, celle qui s'est éteinte à l'âge des 27 ans le 23 juillet 2011 à la suite de l'ingestion d'une quantité bien trop élevée d'alcool alors qu'elle était l'une des plus grandes voix et des plus talentueuses auteurs-compositrices de sa génération, c'est Amy Winehouse. Quel artiste. Gilles Le Gardinier, les 27 ans, c'est derrière vous, c'est ok, on les a dépassés.
C'est derrière moi, j'ai survécu.
Philippe, vous y êtes quoi à 27 ans ?
À 27 ans, on était en 89, j'ai fait le calcul, je me dis, elle va me poser la question. Je venais d'arriver, j'étais journaliste depuis un certain temps, j'ai la carte de presse depuis 85, vous imaginez mon grand âge, et je venais d'arriver à Canal.
Pas de drogue, on pas de désespoir. 89.
Bah non, ceux qui ont pris de la drogue, je vais accuser personne, mais ils sont plus là pour en parler.
Ouais, restez avec nous, restez safe. Pour conclure, une citation de Daniel Darc, le chanteur de Taxi Girl, mise en exergue dans ce livre, Le Club des 27 de Pierre Mikhailov. La mort est seulement romantique pour ceux qui survivent.
Merci beaucoup Stéphanie, on vous retrouve aux commandes de l'émission Musique, c'est le samedi et le dimanche de 16 à 17h, mais ce dimanche-là, je peux vous dire,
ce sera du foot.
France-Pologne, mais... Jacques Vendroux, il va pas être content.
Mais samedi, je serai là.
Bon, vous serez là samedi. Merci beaucoup Stéphanie. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce club des 27 ?
Je trouve ça toujours bouleversant quand des destins qui sont uniques, qui sont séparés, sont réunis par une vision que je qualifierais de romantique. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont survécu et qui relient des choses qui n'ont pas à être reliées en principe et qui essaient d'y voir une loi de l'univers, une loi de la vie. Je trouve ça toujours bouleversant, ça dit beaucoup de notre nature humaine.
À quel âge vous avez commencé la première version de ce roman, Le secret de la cité sans soleil, Gilles Le Gardinier ? Alors, parce qu'il faut dire, ce livre est nouveau sans être nouveau, tout en étant nouveau.
Tout à fait. Alors vous allez rire, mais c'est l'âge où j'aurais dû mourir si j'avais une rockstar. C'est-à-dire, j'ai 27 ans, moi en 89, je me mariais.
Ouais. Et je me suis fait la réflexion en faisant le calcul dans ma tête. Je me dis, mais à 27 ans, il change de voie. Vous bossiez dans le cinéma, vous avez fini à travailler, enfin vous avez fini, c'est un très très beau métier, dans la pyrotechnie.
Ouais, mais je change pas de voie en fait. C'est, je crois que je creuse le même sillon et qu'en fait, je commence le cinéma parce que c'est ce par quoi j'ai abordé l'émotion qui se partage. Et puis, dans les salles, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le film que le fait que les gens ressentent ensemble. Ça me bouleverse. Il y a quelque chose d'énorme là-dessus.
Alors, j'en parlerai pas si vous n'en parliez pas dans votre postface, comme dans tous vos romans. Il y a, à la fin du livre, une adresse à vos lecteurs. Cette fois-ci, elle est un peu différente. Vous revenez sur la genèse de ce roman. 30 ans, il était sorti en poche. Le premier jet écrit à 25 ans, 700 pages. Vous avez décidé de le travailler à nouveau, de le reprendre. De quelle manière ?
L'idée, en fait, c'est que à l'époque, j'écrivais avec ma sincérité, vous l'avez dit tout à l'heure. Et en fait, je suis pas. L'histoire, j'y crois. L'histoire est pour moi géniale. Je ne dis pas ça parce que je suis là pour le proposer aux gens. Mais je trouve cette histoire absolument phénoménale et je trouve qu'elle a le mérite d'amener quelque chose de neuf sur les Templiers et les Cathares, qui est pour moi un sujet rebattu. Par contre, je ne sais pas si à l'époque, j'avais le niveau pour l'écrire. Je sais qu'aujourd'hui, je suis moins mauvais, je suis meilleur pour le faire. Et je rêvais de pouvoir reproposer cette histoire en la retravaillant, pas de la rebalancer comme quelqu'un qui est déjà connu en littérature et qui profite de sa notoriété, mais comme quelqu'un qui se rend compte qu'il peut faire son travail mieux pour faire passer un bon moment au lecteur. Et du coup, voilà, on a attendu. Je l'ai retravaillé pendant 2 ans. Cette année, comme je passais au cinéma, j'avais pas le temps de faire un inédit, donc je me suis dit que c'était le bon moment. Voilà, c'était pour moi, c'était le bon moment.
Vous dites que ce livre est votre acte de naissance en tant qu'écrivain.
Oui, complètement. Parce qu'en fait, je viens du cinéma. J'ai travaillé sur énormément de films, de plein de façons différentes. Et à un moment, je viens pas d'une famille où on m'a dit que je pourrais écrire. Je suis pas quelqu'un de convaincu d'avoir ma place. Je me sens pas illégitime.
Mais vous n'êtes pas non plus une famille où on vous a dit tu n'écriras jamais et tu seras chauffeur-livreur.
Non, clairement.
On vous a laissé libre.
Complètement.
Voilà.
Mais après, s'agissant de ce genre de choses, comme pour votre carrière, on n'attend pas la liberté des autres, c'est-à-dire on s'y met parce qu'on n'a pas le choix. Et grosso modo, c'est ce que je dis aussi, j'ai commencé à écrire comme on tombe amoureux. J'avais prévu autre chose, j'avais pas le temps, la journée était déjà bien pleine et je me suis jeté dedans. Et le reste, ça appartient au public, ça appartient à ce que j'ai vécu depuis. Mais honnêtement, voilà, c'est des chemins où on décide de devenir un peu plus soi-même.
Dans ce livre, il y a des réflexions très personnelles. Je rebondis sur ce thème soi-même. Ce n'est pas des passages philosophiques, mais en tout cas qui donnent votre vision du monde. J'ai bien aimé cette remarque. Vous dites « Les pyramides ont été construites par des milliers d'individus pour la gloire d'un seul et sous la menace. Si on avait laissé les hommes libres de leur choix et de leur souffrance, elles auraient mesuré 2 mètres de haut. »
Au maximum.
Ouais. Et vous dites, à la différence des châteaux cathares qui ont été construits avec la foi et il n'y avait pas d'ouvriers qu'on forçait à travailler 7 jours sur 7.
Avec une nécessité en plus, vous avez complètement raison, mais avec une nécessité, c'était celle de se défendre. Le but, ce n'était pas de montrer, ce n'était pas de frimer, ce n'était pas d'installer une gloire, c'était de survivre.
Vous restez avec nous, Gilles Le Gardinier. On va parler de séries avec Olivier Benkemoun. Et puisque j'y pense, je vais citer une de mes citations préférées d'Alexandre Vialat. Écoutez bien, c'est tellement génial. Il est tellement génial. La forme même des pyramides prouve qu'avec le temps, l'homme est devenu fainéant. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Gilles Le Gardinier, Le secret de la cité sans soleil. Ça pourrait faire une série ? Parce qu'un film, vous ne traitez pas le sujet en un film.
On est d'accord.
Hein ?
J'ai déjà été approché pour, mais ça demande de l'argent pour bien le faire.
Ouais. Et une série ?
Pourquoi pas ?
En
si elle est bien écrite, mais oui, tout à fait.
Ouais, et puis après, il faudra éclairer les grottes.
Oui, les fabriquer.
Ah oui, les fabriquer. Mais non, vous venez de me dire qu'elles existaient. Olivier Benkemoun, une fois n'est pas coutume, vous
bonjour,
ne parlez pas
Philippe
de cinéma.
Vandel.
Ah oui, je vous ai pas salué. Bah, bonjour.
On m'a coupé mon bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Comment
je vais expliquer ce qui se passe, c'est qu'on se voit le matin, donc on se dit déjà bonjour. Donc voilà. Votre indispensable aujourd'hui, c'est Mercredi. Ce n'est pas un film, c'est la série en 8 épisodes de Tim Burton, disponible sur Netflix et qui est en train de devenir cette série un vrai phénomène.
Da 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 da. Da 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 da.
Ça, je connais.
Da 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 da, da 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 da, da 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 da, Famille Adams. Voilà. Bon, j'ai modestement chanté le générique, vous m'avez accompagné, bravo. D'une série qui a été créée dans les années 60 et qui a donné lieu à plusieurs films, vous savez, mais ça a toujours été la Famille Adams. Jusqu'à ce que Tim Burton dévoile sa passion cachée pour un personnage et même une personnage, Mercredi Adams, la fille de Gomez et Morticia Adams. Signe particulier de cet enfant, fait toujours la moue, a le teint pâle, adore Edgar Poe et à peu près toute la littérature gothique et attiré très fortement par la mort et est complètement allergique aux couleurs.
Ah, oh, c'est fou. Ça te fait quoi ?
Ça me donne de l'urticaire et ma chair se détache de mes os.
Voilà, et j'ai oublié de vous dire qu'elle a un humour froid très noir. Bref, elle est différente. Et Tim Burton en est dingue et rêvait depuis un moment de la baigner, si on peut dire, dans des extraits de ses créations. Le Cavalier sans tête, Édouard aux mains d'argent, Beetlejuice, Noces funèbres. Il y a des pincées de tout ça dans cette série que produit Tim Burton et dont il réalise quelques épisodes. Pas tous, mais l'univers est bien là.
Cette histoire s'apprête à prendre une tournure sinistre. Heureusement pour moi, je n'ai pas peur du noir.
Alors, qu'est-ce qui va arriver à cette petite mercredi ? Au début de la série, on comprend bien que c'est une ado à problème qui, en revanche, ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et on en a la preuve puisqu'elle vient de lâcher deux sacs remplis de piranhas dans la piscine de l'équipe de polo masculin de son école pour se venger de garçons pas très sympas. La série démarre donc quand Mercredi se fait virer de son établissement.
La famille de ce garçon voulait porter plainte pour tentative de meurtre.
De quoi ça aurait eu l'air dans ton dossier ?
En effet, tout le monde aurait su que j'ai raté mon coup.
Voilà, Mercredi est donc ce qu'on appelle encore une fois une ado à problème. Donc ses parents vont la mettre dans une école spécialisée pour les marginaux, que eux-mêmes ont fréquenté, une école pour les panormaux ou les paranormaux. Elle s'installe dans son lycée, se fait de nouvelles connaissances, il y a un peu de magie, il y a des confréries, il y a des choses bizarres, des pièces secrètes, des élèves qui ont des pouvoirs de transformation. La vie de l'école des un peu sorciers, quoi. C'est un peu Harry Potter, ça c'est la partie un peu Harry Potter. En revanche, il va y avoir une série de meurtres, des meurtres pas très humains. La police dit un ours, mais c'est pas du tout un ours, c'est bien plus monstrueux. Et c'est Kiki qui va aller enquêter, comme Agatha Christie. C'est la petite Mercredi avec ses petites tresses gothiques, ses petites robes noires et sa copine, La Chose. Vous vous souvenez de La Chose ?
Oui, c'était un super-héros, une sorte de truc bizarre.
Non, c'était une main.
Non, c'est une main fine.
Ah, alors j'avais oublié, je confondais avec autre chose.
Mais c'est aussi un super-héros.
Ah, c'est un super-héros qui s'appelait La Chose,
ouais, tout à fait,
qui était gris, une sorte de truc en pierre.
Ah, je me souviens plus de
c'est
couleur,
vrai, c'est ça, c'est ça. Mais là, c'est pas ça. Et Mercredi, quand elle cherche quelque chose, elle est du genre, déterminée.
Tu fais vraiment une fixette sur cette histoire de monstre dans les bois.
Tu préférerais que j'en fasse plutôt une sur les chevaux et les boys band ? Si tu m'entends hurler à la mort, c'est sûrement que je passe un bon moment.
J'adore ces punchlines. Moi, j'aime beaucoup donc cette petite lycéenne qui ne sourit jamais, qui refuse les amis, qui a donc des punchlines sanglantes et définitives, vous en avez entendu quelques-unes, mais qui arrive aussi à transmettre, sans dire un mot, lorsqu'elle est filmée en très gros plan, des émotions intérieures. Et ça, c'est le talent de la jeune comédienne qui l'incarne. Elle s'appelle Jeanne Ortega. Elle a 20 ans. Elle en fait 15 parce qu'elle ne mesure que 1m55. Elle a démarré sa carrière à 8 ans. Elle est absolument formidable. Elle a la force des actrices des films muets. Et puis, je vais terminer là-dessus. La scène dont tout le monde parle, c'est une scène de bal. Le bal de l'école, où elle réalise une danse, mais une danse à la Pulp Fiction, vous voyez, une sorte de ska saccadé à base de coups de poing, de bras en l'air, une danse à la fois effrayante et aguichante, sur un classique du groupe de rockabilly américain le plus destroy, les Cramps. You better die when I show
up. C'est vrai que j'aime donner des coups.
Voilà, ça s'appelle Mercredi. Et moi, j'ai aimé.
Vous nous la conseillez. Alors, le hasard a fait que vous l'avez vu, Gilles Garnier, cette série.
Oui, tout à fait. Bah, Tim Burton, Danny Elfman à la musique, la famille Adams, tout ce qu'on en a dit. Évidemment, je me précipite, je regarde.
Et alors ?
J'ai pas été convaincu. J'ai pas retrouvé l'originalité du style de Tim Burton. L'actrice est phénoménale, mais ils sont prisonniers d'une écriture qui, je trouve, renvoie sans arrêt au film de Barry Sonnenfeld, qui est juste phénoménal, les deux films. Mmh. Et on est dans une espèce de tentative de modernisation aujourd'hui, où en fait c'est juste une jeune femme qu'on fait passer pour anormale alors qu'elle a juste du caractère dans une époque qui n'en a pas. Et honnêtement, moi je suis resté sur ma faim, quoi, vraiment. Donc toute mon affection à Tim Burton, tout mon respect aux gens qui l'ont fait, mais pour cette fois, on va pas les suivre.
C'est un dernier mot pour alors, sauver la série.
C'est un vrai phénomène. Hein. Tout le monde la regarde, tout le monde ne parle que cette série. Tout le monde l'a vu. Vous ouvrez les fils de réseaux sociaux, on ne parle que de ça, et en particulier de la danse que je viens de vous décrire, parce que l'actrice est phénoménale. C'est un peu teen movie. C'est un peu pour les jeunes. C'est
pour
un
les
peu,
ados.
Voilà, c'est un peu un truc de lycéen. Or, vous n'êtes plus une lycéenne.
J'ai arrêté.
Je vais vous dire une chose.
Et aujourd'hui, la jupette et les couettes me boudinent. Donc, en fait, j'arrête.
Et je pense que le petit problème vient de là. Parce que c'est burtonien, mais néanmoins, ça reste un truc un peu pour les ados.
Mais attendez, je vous regarde Olivier Benkemoun avec votre barbe là, votre élégance, vous n'êtes plus une lycéenne.
Bah, si, pourtant.
Dites-nous, Olivier, vous êtes encore une.
Non,
parlez-nous franchement, on est
si
là entre
bon
nous.
Si c'est un bon argument, il marche dans les deux sens.
Est-ce que vous êtes encore une lycéenne, ouais. Olivier, s'il vous plaît.
On va poser la question, je vais être sérieux. Quel lycéen ou lycéenne sommeille en vous ?
Ah bah, un lycéen qui aurait aimé avoir le caractère de cette petite.
Est-ce que t'as fait des maths ?
Quand vous la décrivez, moi je ne l'ai pas vue, vous savez qui j'avais comme visage qui se présentait à moi ? Greta Thunberg.
C'est pas faux.
C'est pas faux.
Voilà. C'est pas faux
la
du
petite
tout.
Lycéenne qui ne sourit jamais et qui refuse les amis et qui a des punchlines sanglantes et définitives.
Par contre, elle se fout totalement de l'écologie, celle-là. Je peux vous dire, elle s'en fout totalement.
Au moins, c'est pas politiquement correct. Merci beaucoup Olivier Benkemoun. Culture Média continue avec Gilles Le Gardinier. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Gilles Le Gardinier, Le secret de la cité sans soleil, dernier roman qui vient d'être publié chez Flammarion. Vous avez ceci en commun avec Picasso, non pas que vous êtes peintre, mais vous avez des périodes. Parce que vous avez eu la période livre marrant, vous avez eu la période thriller, mais j'ai appris, en lisant ce livre, que vous avez d'abord commencé en écrivant des thrillers, puisque le livre que vous venez de publier a d'abord été votre première tentative dans l'écriture, 700 pages, publiées à 30 ans. Il est quand même sorti, le livre. Il est sorti en poche.
Complètement, il est sorti directement en poche. Mais non, je n'ai pas eu de période, je continue, j'alterne. Hein. Le prochain est une comédie, le dernier est une comédie, celui-là est un thriller.
Vous avez raison, mais comme on vous a connu avec le chat et son poncho, on imagine que c'était deux périodes.
Ben non, non, c'est le même bonhomme et ça continue, pour notre bonheur, ouais. J'espère.
Quand vous écriviez des romans sérieux, vous avez dit que vos amis vous disaient « c'est bien ce que tu écris, mais pourquoi tu n'écris pas un truc débile ?»
La phrase exacte, c'était « pas aussi débile que ce que t'es ». Voilà, mais j'ai gardé mes amis, je suis fidèle.
Ouais.
Mais pour le coup, je suis quelqu'un qui... j'adore rigoler, la vie est dure et on a vraiment besoin d'aller chercher le décalage ou les choses qui sont légères dans l'existence. L'idée pour moi, je viens du cinéma, je viens d'un cinéma qui est plutôt d'action et anglo-saxon. Et pour moi, il était naturel de proposer quelque chose qui permet aux gens de ne jamais s'ennuyer. Je déteste m'ennuyer quand je regarde quelque chose à la télé, au cinéma ou quand je lis. Donc pour moi, c'était au minimum, en proposant quelque chose, les gens ne devaient pas s'ennuyer. Donc je suis passé au thriller tout de suite.
Aussi débile que ce que t'es, ça fait référence à la manière que vous aviez de travailler sur les plateaux de tournage. Racontez ce que vous faisiez, parce qu'il faut raconter que dans le cinéma, on travaille, mais comme on est une énorme équipe, les 9 dixièmes du temps, on passe son temps à attendre, puisque c'est un autre corps de métier qui bosse.
Tout à fait, ouais, tout à fait. En fait, vous attendez toujours que des choses se mettent en place, donc à moins d'être le réalisateur, ce qui m'est arrivé récemment.
Ouais. Et le premier assistant, sinon tous les gens attendent.
Et encore, le premier assistant arrive à glander. Mais pour le coup, il faut s'occuper. Et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement grégaire. Je suis comme vous, je suis curieux. J'aime aller vers les gens. J'aime vivre des émotions qu'on n'a pas prévu de vivre et aller un petit peu plus loin que ce que la vie nous autorise. Donc effectivement, on avait un arsenal assez complexe.
Ah, vous faisiez quoi alors sur les tournages? Racontez. J'ai lu des choses, ça m'a trop fait plaisir. Je me suis dit, c'est pas vrai. Alors, s'il le fait vraiment.
Alors malheureusement, tout est vrai, Philippe.
Ouais.
Coller les portes des toilettes avec les premières colles cyanoacrylate qu'on ne peut pas défaire et qu'on est obligé de défoncer à la hache, changer les voitures de place sur les parkings avec les clés pour que les gens deviennent fous au bout de 3 jours en se disant « je perds la tête, je ne sais plus où je garde ma bagnole ».
Vous avez fait ça même avec des stars ?
Oui.
Qui par exemple a
pas
fait
sa bagnole ? Non, je ne peux pas le dire.
La personne s'est suicidée.
On se reverra pour mes mémoires dans quelques années. Mais oui, bien sûr. Sur un plateau, tout le monde est équivalent. On est une bande d'humains. Donc vous vous attachez aux humanités, pas aux grades.
Ça n'existe plus sur les plateaux, le fauteuil avec son nom dessus, c'est où? C'est la légende d'Hollywood ou est-ce que ça se fait encore?
Non, ça se fait encore si vous le demandez, mais c'est pas essentiel. Ceux qui ont du boulot sont rarement assis et les autres n'ont pas le droit à cette chaise. Donc en fait, soyons très clairs, ça ne sert pas souvent, quoi.
Voilà. Pour avoir parlé avec beaucoup de comédiens et de comédiennes ici, ils disent que quand même il y a quelque chose qui tape sur le système, c'est la magnifique organisation du cinéma, par exemple d'avoir quelqu'un qui vient vous chercher tous les jours en bas de chez vous, ce qui n'arrive pas quand vous êtes journaliste, il n'y a personne en bas de chez moi pour m'amener à la radio, et ça tape sur le système. Il y a quand même une différence entre les stars et les non-stars dans le cinéma, ou est-ce que je me trompe?
Oui, c'est vrai, mais après vous avez des gens qui, même si on ne vient pas les chercher en bas de chez eux, sont câblés pour être fiers d'eux et la ramener. Et vous avez des stars qui sont d'une modestie et d'une humanité absolument fascinantes. J'ai eu la chance de travailler là sur mon premier film, on en reparlera l'année prochaine, avec John Malkovich, Fanny Ardant, Émilie Dequen et Philippe Basse. Aucun d'eux n'était une star au mauvais sens du terme. C'est des géants et humainement, ça a été, ils pétaient pas les plombs parce qu'on venait les chercher.
Vous avez un pied dans deux milieux, le cinéma et l'édition. Comment vous jugez de manière générale l'édition française? Godard avait cette phrase géniale, il disait « j'aime mon métier mais j'aime pas ma profession ». Comment vous trouvez l'édition?
J'ai la chance d'écrire pour le public, j'ai la chance que le public soit là, donc je fais moins attention en fait aux à côté. Mais j'aurais tendance à dire qu'effectivement l'édition est un milieu qui est peut-être moins ouvert que l'audiovisuel. On y travaille aussi moins en équipe. Quand vous faites un film, vous êtes une soixantaine, centaine, et vous apprenez tout de suite à travailler avec les autres et à s'appuyer.
Ah oui, non, mais là, pardon de vous dire ça, mais vous découvrez l'eau mouillée. Parce que Proust ne travaillait pas en équipe. C'est même horrible, c'est les pires livres, c'est ceux qui sont écrits en équipe.
Alors pour le coup, moi j'aime travailler en équipe, mais dans la complémentarité des métiers. C'est ce que je cherche à mettre en place
mais
avec mes éditeurs.
Mais pas dans l'édition. Je dis ça parce que Gilles Gardinier, je trouve une interview de vous, vous êtes assez dur avec le milieu littéraire français. Vous dites dans ce métier, particulièrement en France, on regarde d'abord qui vous êtes et qui vous connaissez avant d'évaluer ce que vous faites.
C'est une évidence.
Alors moi, je pense exactement le contraire. Et les auteurs étrangers envient la France où des maisons d'édition aussi prestigieuses que Gallimard ou Grasset ou Le Seuil publient des inconnus pour des premiers romans et publient même parfois des inconnus sans avoir vu leur tête puisqu'ils ont reçu le livre par la poste.
Alors j'ai la chance d'être dans le groupe Gallimard et je suis d'accord avec vous.
Ah bah alors, sauf que l'inverse de ce que vous venez de dire.
Il y a 1700 éditeurs en France, Philippe. Ouais. Vous parlez d'un que tout le monde connaît, que tout le monde plébiscite.
J'ai choisi à dessein les plus gros.
Bah, honnêtement, je suis d'accord avec vous sur Gallimard. Je ne serais pas d'accord. Pourquoi j'avais changé d'éditeur il y a quelques temps? Il y aura un débat très intéressant et on en parle beaucoup avec les auteurs, y compris avec des auteurs étrangers. J'aime bien mes collègues, moi. Honnêtement, l'ouverture d'esprit n'est pas forcément ce qui caractérise les gens qui décident qui sera publié ou non.
Mais regardez, ils ont publié Émile Ajar sans même jamais l'avoir vu. On a appris après que c'était Romain Gary. Personne n'était dans la confidence. Il a eu le Goncourt. Les jurés Goncourt ont voté pour un inconnu. Il n'y a qu'en France qu'on trouve ça.
Oui, oui, d'accord. Ok. Je vous souhaite bon courage si vous, un jour, vous vous lancez dans le roman. Mais non, honnêtement, j'ai pas le même point de vue. Je suis de l'intérieur et j'ai vécu vraiment... il m'a fallu 11 ans pour être publié. Je sais aujourd'hui quel est mon parcours. J'en suis reconnaissant vis-à-vis des éditeurs qui m'ont donné ma chance. Mais j'ai aussi, comme vous, cette curiosité. Je regarde autour de moi.
Vous avez devant vous le livre « Le Club des 27 ». Dans « Le Club des 27 », il y a Amy Winehouse. J'ai pas fait anglais première langue, moi j'arrive même plus à prononcer le français ce matin. Back to Black, Amy Winehouse sur Europe 1. On reste avec Gilles Gardinier, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Philippe Vandel.
En compagnie de Gilles Le Gardinier, Le secret de la cité sans soleil. C'est votre dernier roman, mais il y a un roman qui était paru en 2012 chez Fleuve Noir qui s'était vendu à 900 000 exemplaires. Complètement cramé, c'est le nom de ce roman, le titre. Pourquoi j'en parle? Parce que ça va devenir un film.
Oui, complètement.
Racontez. Vous en êtes où d'abord?
Il est fini, le film est techniquement fini. Donc on pouvait le sortir en mars, avril, mais comme c'est une histoire qui se finit à Noël, il fallait qu'elle soit en phase avec l'époque. Donc il sortira le 1er novembre 2023.
Avec Fanny Ardant, John Malkovich, Émilie Dequen, qu'est-ce que ça raconte?
C'est l'histoire d'un homme qui croit qu'il est au bout de sa vie et qui va se rendre compte qu'il peut n'être qu'au début. C'est quelqu'un qui vient de perdre sa femme, qui est joué par John, et qui, en fait, pour se rapprocher des jours heureux, retourne là où il a rencontré sa femme, qui était française, lui est britannique, elle était française. Et il retourne dans la propriété où il l'a connue. Et la propriété est remplie de gens qui sont pas bien non plus pour des raisons différentes. Et en fait, il va arriver comme un élément perturbateur, c'est rien de le dire. Et ils vont pas se reconstruire, mais en tous les cas, ils vont apprendre à se comprendre les uns les autres.
Alors, quand vous en parlez comme ça, on dirait un téléfilm qu'on sait pas trop où caser. Or, pas du tout. Ça ne s'entend pas à la voix de Le Gardinier qui le raconte, que comme il est le réal, il a des responsabilités. C'est une comédie.
Oui, complètement, c'est une comédie.
Oui, ouais. Mais vous ne l'avez pas dit.
Non, alors...
En même temps, les comédies, ça se fait avec des drames.
Ça se fait pas toutes les bonnes comédies se posent sur un drame.
Ça démarre avec un drame.
Ouais, ouais. Tout à fait.
Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Quelle dose de... Je vous pose la question sans gêne, puisque je n'ai pas lu le roman. Donc, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Quelle part de comédie arrive dans cette histoire et dans ce groupe?
Alors l'histoire n'est pas drôle, c'est l'histoire de plusieurs chagrins qui se croisent.
J'ai compris.
Mais tout l'intérêt de cette comédie, c'est en fait la personnalité des gens qui vont se retrouver confrontés dans un lieu unique et qui, grosso modo, réagissent les uns aux autres. La comédie, elle naît des étincelles que des personnalités qui n'ont plus rien à perdre font quand ils se frottent les uns aux autres. Et elle est là, la comédie.
Alors, j'ai toujours pas compris et je suis absolument pas informé parce que j'ai lu une interview de vous dans l'équipe, c'était en juillet. Vous dites c'est davantage une comédie à l'anglaise qu'à la française. Je ne cherche pas le gag. J'ai besoin que la comédie s'appuie sur le sentiment. Je me dis mais c'est quoi une comédie sans gag? Comment on fait pour rire alors?
Vous écoutez les gens qui ont des choses à dire et qui osent les dire au mauvais moment. C'est ça en fait. C'est du contretemps. Mmh. C'est les gens qui parlent au mauvais moment, les gens qui sont sincères alors qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas. C'est toutes les fois où... Ce qu'il y a le plus drôle dans votre vie, c'est pas quand vous prenez une porte. Ça, c'est bon pour les gens qui ne vous connaissent pas. C'est quand vous osez sortir de vos rails. C'est quand vous osez dire ce que vous avez toujours tu. C'est quand vous osez vous autoriser ce qu'on vous a toujours interdit. C'est là. Quand ça dérape réellement dans la vie des gens, pas à cause d'une peau de banane, mais à cause de sentiments, c'est là que pour moi ça devient drôle.
Vous avez pratiqué combien de métiers dans le cinéma? Presque une dizaine?
Plus que ça, je pense.
Quel réalisateur vous étiez? Parce que vous deviez avoir l'œil sur tout.
Impliqué, informé, conscient des choses, hyper heureux de travailler en équipe. J'ai eu une équipe absolument phénoménale. Et grosso modo, mon job à moi, que ce soit dans un livre ou dans un film, c'est de fabriquer une émotion. J'aime mettre toute la vérité dans un truc faux pour que ça paraisse vrai. C'est vraiment, c'est nos métiers. Et honnêtement, j'ai vécu cette aventure réellement, humainement, pas avec des gens qui étaient salariés, mais avec des gens avec qui ça s'est passé humainement de façon phénoménale. Et que ce soit avec John, avec Fanny, avec Émilie ou avec Philippe, on a vraiment vécu comme les personnages vivent dans le film.
À part complètement cramé, où en sont les adaptations de vos autres romans? Il y en a combien en route?
Aujourd'hui, il n'y en a plus que trois. Parce qu'il y en a un que j'ai arrêté. Mais oui, je préfère que ça ne se fasse pas plutôt que ça se fasse mal.
On est d'accord.
On va pas
mais
encombrer.
Déjà, plus que trois, il y a des gens qui vendraient leurs parents pour avoir un livre qui soit adapté au cinéma.
Alors, on verra déjà ce que ça devient. Parce que on verra ce que ça devient. Complètement cramé, il nous a fallu 9 ans. Ouais. 9 ans pour le mettre en route. Alors que je connais énormément de gens de par mes métiers. 9 ans, donc on est modeste. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et on verra ce que le public en fait.
Parce
alors,
il y a lesquels? Moi, j'avais noté « Demain, j'arrête ». J'avais noté « Ça peut pas rater ». Et j'avais noté « Quelqu'un pour qui trembler ».
Ça a bougé. Il y a encore « Quelqu'un pour qui trembler ». Il n'y a plus « Demain, j'arrête ».
Ouais.
Et puis, il y a 2 thrillers.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gilles Le Gardinier. Je rappelle, Le secret de la cité sans soleil, si vous voulez le produire, ça coûte très très cher et c'est absolument magnifique, avec beaucoup d'images souterraines, et prévoyez des drones et de la reconstitution. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
C'est chez Flammarion, je ne sais pas si je l'ai dit. Merci à tous, nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec une TikTokeuse, elle s'appelle Athéna Sol, elle est agrégée de lettres. Elle a 650 000 abonnés. Elle a créé la rubrique des charros et des lettres qui popularise la littérature sur les réseaux sociaux. Et puis la chanteuse Zazie pour son nouvel album qui sort justement ce vendredi. Juste après le flash, vous retrouverez Julia Vignali et Mélanie Gomez qu'on retrouve tout de suite. C'est bien fait pour vous. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Le programme du jour.
Eh bien, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, on va se poser cette question. Pourra-t-on un jour faire disparaître le VIH? Vous savez bien, ça fait 40 ans qu'on le combat, 40 ans qu'il est apparu. Où en est la recherche? Quelles sont encore les idées reçues qui ont la dent dure? On va faire le point sur toutes ces questions ce matin.
Et nous serons accompagnés du professeur Gilles Pialou. Il est chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Toudon à Paris et vice-président de la Société française de lutte contre le sida.
On vous écoute. Merci encore Gilles Le Gardinier. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain. Europe 1.